Bonjour et bienvenue. Au cours des prochaines minutes, je vais vous parler de l'impact d'un cœur généreux. Mais je parie que ce ne sera pas ce que vous pensez. Plongeons-nous ensemble dans la parole pour le découvrir. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Vous allez vivre quelque chose de spécial, tant dans le message que je vais partager maintenant que dans le prochain, car je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder est extrêmement important et touche littéralement le cœur de chaque personne. Il va vous révéler où vous en êtes, où j'en suis. Et il y a certaines choses que Dieu m'a montrées et dont je crois que chaque croyant a besoin d'entendre et dans lesquelles il doit s'ancrer. Paul écrit à l'église de Corinthe, il leur a apporté l'évangile, les a évangélisés et a établi l'église parmi eux. Il leur a écrit plusieurs lettres, et celle-ci est tirée de 2 Corinthiens 8, 1. Elle dit, « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. » Tout au long de ce chapitre et du chapitre suivant, et en fait, nous trouvons des références dans les chapitres 10, 11 et 12, traitant toutes du même sujet. Paul parle de ce qui se passait au sein de l'église de Macédoine, et il encourage les Corinthiens à suivre leur exemple. Lorsque Paul s'est rendu en Macédoine, lui et ses compagnons ont essayé d'aller en Bithynie, en Asie mineure, mais le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'y aller. Puis il a eu cette vision, un homme de Macédoine lui a dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Ils en ont donc conclu que c'était le Seigneur qui leur parlait. Ils ont traversé la mer et se sont rendus en Macédoine. C'était un terrain vierge, il s'agissait de champs de moissons intacts. Ils se sont retrouvés dans la ville de Philippe, nommée d'après Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. C'était une ville stratégique qui contrôlait la route entre l'Europe et l'Asie. De nombreuses batailles stratégiques ont été menées pour le contrôle de cette région. Nous voyons tout d'abord que Paul et ses compagnons descendent au bord du fleuve. Des femmes sont là en train de prier et il leur annonce l'Évangile. Une femme très riche nommée Lydie, vendeuse de pourpre originaire de Thyatire, qui se trouve d'ailleurs dans la région d'Asie mineure où le Saint-Esprit n'avait pas permis à Paul de se rendre, accepte le Seigneur et est sauvée. La teinture pourpre utilisée pour teindre les vêtements qu'elle confectionnait, dont beaucoup étaient destinés à de hauts fonctionnaires de l'économie romaine, provenait des rivières d'Asie mineure, près de Thyatire. On y trouvait un mollusque particulier qui produisait cette teinture pourpre. Donc elle avait des relations professionnelles sur place. Elle est sauvée et maintenant l'évangile va être diffusé là-bas grâce à ses relations professionnelles. Le Saint-Esprit n'a pas permis à Paul d'y aller. En réalité, aucun d'entre nous ne peut tout faire ni tout être. Vous ne pouvez pas aller partout. Vous ne pouvez pas tout faire, mais si vous faites votre part et si je fais la mienne, Dieu veillera à ce que toutes les autres parties soient prises en charge. Sa stratégie est époustouflante et la tapisserie que Dieu tisse est fabuleuse. Je pense que parfois, lorsque nous regardons la vie et les choses qui se passent, c'est presque comme si nous regardions le dos d'une tapisserie ou d'un magnifique tapis tissé avec des motifs et de belles images. Vu de dos, cela ne ressemble à rien, cela n'a aucun sens. Parfois, c'est ainsi que nous voyons ce que Dieu fait. Cela n'a pas vraiment de sens, mais si vous retournez la tapisserie, tous les fils ont créé quelque chose de magnifique, de symétrique, de surnaturel, que vous ne pouvez pas toujours voir avec votre perspective humaine limitée. Mais revenons à notre histoire. Lydie est sauvée et elle et toute sa famille se font baptiser. Ensuite, Paul chasse un démon d'une petite esclave qui avait un esprit de divination. Les maîtres de la fille possédée par un démon, ses propriétaires, sont très en colère car ils ont perdu leur source de revenus. Ils montent donc la population contre Paul et Silas et les font jeter en prison. Ils sont en prison, vous pouvez lire cette histoire dans le livre des Actes. Il y a un tremblement de terre et le gardien de la prison romain est sauvé. Ensuite, sa famille est sauvée, ils sont tous baptisés et c'est là l'Église naissante. Lorsque vous lisez le livre des Philippiens, ce sont ces personnes qui sont destinataires de ce message. Bien sûr, l'Église s'est développée car des anciens et d'autres personnes sont mentionnées, mais c'était là le germe de l'Église. Certaines personnes pensent que le gardien de prison de Philippe est devenu le pasteur de l'Église de Philippe. Donc, lorsque vous lisez l'Épître aux Philippiens, il est bon de la lire en gardant cela à l'esprit. Lorsque Paul parle de la grâce de Dieu accordée à l'Église ou aux Églises parce qu'elle s'était étendue à d'autres communautés de Macédoine, ce sont ces personnes qui sont à l'origine de tout cela. Nous lisons ensuite en 2 Corinthiens 8, 2 à 4, qui parle de l'Église de Macédoine qui encourage les Corinthiens. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Il évoque notamment la grâce de Dieu qui leur a été accordée. Cela est lié au fait qu'ils ont donné, même au prix de sacrifices, pour répondre aux besoins d'autres personnes. Il est écrit, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Comment aller au-delà de ces moyens? Par la grâce. Nous allons jusqu'à la limite de nos moyens, et la grâce nous emmène au-delà de nos moyens. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie, dans le ministère, dans les relations, dans les affaires et dans notre cheminement spirituel. Nous allons jusqu'aux limites de nos moyens, mais la grâce de Dieu nous emmène au-delà de nos moyens. Le texte dit ici, c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce. Ainsi, il est dit que cette église naissante, que ces gens de Macédoine, nous demandaient avec beaucoup d'insistance. D'autres traductions disent « nous demandant avec de grandes instances ». Une autre traduction dit « ils ont beaucoup insisté ». Ici, ce n'est donc pas le prédicateur qui implore les gens de donner. Ce n'est pas le prédicateur qui demande sans cesse aux gens de donner, même si je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. Il faut rappeler aux gens l'importance de donner et que, grâce à nos dons et à nos prières, l'Évangile est soutenu et se répand dans d'autres régions. Mais ici, ce sont les gens qui implorent et qui demandent avec insistance à Paul d'accepter ce don. Je voudrais simplement dire quelques mots à ce sujet. Il est écrit qu'ils ont beaucoup insisté, c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé. Ils avaient pris conscience que la vie est courte et que l'éternité est longue. Ils étaient pressés de faire ce don, ils étaient pressés que ce don soit reçu et qu'ils puissent répondre aux besoins que Dieu leur avait demandé de satisfaire. Vous voyez, Lydie avait compris que l'argent n'était pas la solution. Elle était riche, elle avait des serviteurs, elle avait une grande maison, Paul et Silas ont séjourné chez elle, d'autres ont séjourné chez elle. Elle avait une entreprise très lucrative à l'époque, très peu de gens vendaient de la pourpre. C'était une femme très riche, mais elle avait compris que l'argent n'était pas la solution. Vivre dans un endroit nouveau et exotique n'était pas la solution. Certaines personnes pensent, si je pouvais gagner plus d'argent, si je pouvais avoir plus de choses, si je pouvais voyager, cela satisferait mon besoin intérieur. Non, Lydie a découvert que cela ne la satisfaisait pas, car la vérité est que, où que vous alliez, quoi que vous ayez, vous êtes toujours vous-même. Les gens ont besoin de Dieu. Le gardien de la prison était sans doute un ancien soldat grisonnant qui savait à quel point la vie pouvait être courte. Beaucoup de ses camarades d'armes avaient péri au cours des campagnes militaires auxquelles il avait participé. Beaucoup de ses amis n'étaient plus là. Il savait à quel point la vie pouvait être fragile et s'éteindre rapidement. Beaucoup des prisonniers qu'il avait gardés n'étaient plus là. Certains avaient sans doute été exécutés, beaucoup étaient sans doute morts dans leurs cellules. Il savait le changement qui s'était opéré en lui. Il était passé de l'insensibilité à la compassion. Ce même gardien de prison qui avait enfermé Paul et Silas dans la prison la plus profonde et leur avait attaché les pieds, sachant qu'ils avaient été victimes d'un faux procès, sachant qu'ils avaient été injustement accusés, leur dos était déchiré par les coups de fouet, ils avaient été battus et ils s'en moquaient. Il n'était pas ému par leur souffrance. En fait, savez-vous ce qu'il a fait après les avoir enfermés dans le cachot? Il est allé se coucher. Il était insensible face à l'injustice. Il était insensible à la souffrance qu'ils enduraient. Seul le tremblement de terre l'a réveillé. Cependant, à partir du moment où il a accepté Christ, nous voyons qu'il se met à soigner leurs blessures avec amour. Il les invite à rencontrer sa famille. Il partage un repas avec eux. Cet homme a complètement changé. Sa propre famille, sa femme et ses enfants ont très certainement constaté le changement radical qui s'était opéré en lui. Cela les a sans doute amenés à accepter Christ à leur tour. Quant à la petite voyante, nous ne savons pas si elle a été sauvée, mais j'aime à penser qu'une fois libérée de ses pouvoirs démoniaques, elle s'est également tournée vers Christ. Elle savait que le pouvoir du diable est réel. Pas étonnant qu'ils aient été si pressés. Hier soir, j'ai lu le témoignage d'un vieux rocker qui s'appelle Alice Cooper. J'étais dans un club en 1972 et Alice Cooper était là. Il était complètement bourré. Il était tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout. Dans son témoignage, il raconte qu'il était en fait le fils d'un pasteur. Je crois que son grand-père était évangéliste. Il a pris une autre voie et est devenu très célèbre. Sa carrière avait décollé. Il avait toutes les femmes qu'il voulait, toutes les drogues qu'il voulait et tout ce qu'il voulait. C'était un alcoolique endurci et un toxicomane invétéré. Jésus-Christ l'a libéré. C'était intéressant. C'est l'une des choses qui a attiré mon attention. Aujourd'hui, il prêche Christ sans honte. Il prêche que Jésus est la réponse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous connaissez son passé quand il faisait du rock and roll, c'était très sombre et très satanique. Il estime qu'une partie de sa mission consiste désormais à prêcher Christ, en particulier aux jeunes, et à dire aux gens que le diable existe vraiment, qu'il ne s'agit pas seulement d'un mythe, mais que le diable est réel. Je dis cela en pensant à la petite esclave qui était possédée par l'esprit de divination. Les Écritures disent que Paul a chassé l'esprit mauvais hors d'elle. Pour la première fois depuis qui sait combien de temps, car nous ne savons pas comment ni depuis combien de temps elle était tourmentée par ce démon. Mes amis, les démons ne sont pas gentils. Ils sont méchants, ils sont impurs, ils sont cruels. Son esprit a été libéré, son cœur était libre. Pas étonnant qu'il soit dit qu'ils étaient impatients que Paul reçoive ce don. Ils savaient tous ce que c'était que de passer des ténèbres à la lumière. Si quelqu'un n'avait pas payé le voyage de Paul pour qu'il traverse la mer et leur prêche l'Évangile, il serait encore perdu et se dirigerait vers une éternité sans Christ. À présent, c'était à leur tour d'apporter l'Évangile à quelqu'un d'autre. À présent, c'était à leur tour de soutenir l'apôtre Paul et son œuvre de prédication et d'enseignement. Ils étaient impatients de le faire. Je pense que nous devons avoir une urgence dans le cœur, mon ami. Le ciel est réel, l'enfer est brûlant, l'éternité est longue, le temps est court. Nous devons agir avec urgence. Nous devons donner pour que l'Évangile puisse être prêché aux quatre coins du monde. Leur générosité, voire leur sacrifice, en ces temps difficiles, a eu plusieurs effets. Tout d'abord, au verset 5, cela a démontré à qui ils appartenaient et à qui ils s'étaient donnés. Le verset suivant, 2 Corinthiens 8:5, dit « Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Ainsi, leur don montrait qu'ils s'étaient donnés au Seigneur. Mes amis, c'est une vérité incontournable. Notre cœur et notre argent sont liés. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous investissons dans ce que nous aimons. » Par leurs dons sacrificiels et insistants afin que d'autres puissent être touchés par l'Évangile, ils ont montré qu'ils appartenaient au Seigneur, qu'ils s'étaient donnés au Seigneur. Puis Paul dit quelque chose d'intéressant. Puis à nous par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous nous donnions entièrement au Seigneur et que chacun d'entre nous se consacre également à une œuvre que le Seigneur accomplit. Personnellement, j'ai été sauvé lors d'une mission de rue dans une petite ville appelée Medford, dans l'Oregon. C'était une soirée où l'Évangile était partagé, la salle était remplie de sans-abri, de toxicomanes et d'alcooliques. Une invitation a été lancée et j'ai été le seul à y répondre ce soir-là dans cette petite mission de rue. Immédiatement, en fait très peu de temps après avoir été sauvé, j'ai entendu un évangéliste qui prêchait dans ce qu'on appelle un Grange Hall, une sorte de magasin d'alimentation, une petite salle attenante aux activités des agriculteurs de la région. J'ai été tellement touché, ému et inspiré par cet évangéliste que je me souviens encore de cette soirée. C'était une sorte d'enseignant évangéliste. J'ai suivi cet homme dans tout le sud de l'Oregon. C'était un brillant interprète de la parole de Dieu. Je me souviens encore du soir où il a enseigné un message tiré de Marc 4 sur la parabole du semeur. À ce jour, je dirais que ce message, au-delà du simple fait d'entendre parler du salut que Christ offre et qui m'a amené dans le royaume, ce message sur la parabole du semeur, sur la façon dont la parole de Dieu agit, sur la façon dont Satan vient voler la parole de Dieu et sur le fait que si nous mettons la parole de Dieu dans notre cœur, elle produira une moisson. Et sur la façon dont nous devons entendre et écouter la parole de Dieu, cela m'a tellement marqué et a tellement changé ma vie que je me suis donné à cet homme et au travail qu'il accomplissait. Je dis cela parce que je l'ai fait par mes dons. Je n'avais pas grand-chose à l'époque, mais tout ce que je pouvais donner, et même plus, j'ai donné selon mes moyens et au-delà de mes moyens, par la grâce de Dieu, pour soutenir ce qu'il faisait. Quand je n'ai plus eu d'argent à donner, j'ai donné mes affaires. Je pense que chacun d'entre nous, notre véritable appartenance à 100% au Seigneur, s'exprime dans ce que nous donnons pour son œuvre. Je pense que certains qui regardent en ce moment même doivent prier pour l'église à laquelle vous appartenez. Puis après être retourné en Californie et dans les églises auxquelles j'appartenais, j'ai vécu quelque temps dans l'Oklahoma et j'ai fait la même chose dans l'église à laquelle j'appartenais là-bas. Je me suis donné à elle et à leur ministère. J'ai donné le premier dixième de tous mes revenus, puis bien plus que cela, je donnais chaque semaine à cette église. J'ai rejoint une petite église ici, en Californie du Sud. Je suis devenu membre du personnel de cette église et j'ai fait la même chose. Je me suis donné au Seigneur, mais je me suis aussi donné à cette œuvre. Aujourd'hui, Dieu accomplit quelque chose ici à travers l'église Cottonwood. Janet et moi sommes pleinement engagés dans cette œuvre. À ceux qui nous regardent, je pense que vous devez prier sincèrement et sérieusement pour vous donner à une œuvre que Dieu accomplit. Peut-être dans l'église que vous fréquentez. Si vous n'avez pas d'église, vous devez en trouver une. Trouvez une église où l'on aime Jésus, où l'on prêche l'Évangile, où l'on n'a pas honte du nom de Jésus, où l'on enseigne la parole de Dieu, où l'on s'intéresse à l'évangélisation. Engagez-vous par vos prières, impliquez-vous, faites du bénévolat et donnez. Je pense que nous devons d'abord avoir à cœur l'expansion du royaume de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins personnels, il s'y intéresse et il répondra à nos besoins. Mais vous découvrirez, en voyant maintenant ce que produit un cœur généreux, qu'en réalité cela apporte des bénédictions dans la vie de celui qui est généreux. Ce n'est pas notre motivation première pour donner, certainement pas. Nous voulons aider les autres. Nous voulons qu'ils sortent des ténèbres pour entrer dans la lumière glorieuse de l'Évangile. Nous voulons qu'ils évitent une éternité de destruction et de séparation d'avec Dieu. Nous voulons les avoir au ciel avec nous. C'est notre motivation première. Dieu promet de bénir ceux qui donnent généreusement, et nous allons le découvrir dans les chapitres que nous lisons ici. Ignorer cela, c'est ignorer quelque chose que la parole enseigne clairement. Nous ne voulons donc pas l'ignorer. Je veux avoir foi en cela et faire confiance à Dieu pour qu'il le fasse, car il a promis de le faire. Nous lisons dans le 9e chapitre que Paul continue d'encourager les Corinthiens à suivre le même modèle de don que celui des églises de Macédoine. Nous lisons cela en 2 Chroniques, ou plutôt en 2 Corinthiens 9:5. Il est écrit: J'ai donc estimé nécessaire de prier ces frères de me précéder chez vous pour s'occuper du don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi, il sera prêt quand j'arriverai et prouvera que vous donnez généreusement et non à contre-cœur. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne veut pas que nous donnions par obligation et à contre-cœur. Il veut que nous donnions simplement par générosité, avec un cœur libre. Il poursuit au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il parle de donner une offrande pour l'œuvre de Dieu. Il utilise la métaphore de la plantation de graines. Lorsque nous donnons pour l'œuvre évangélique, c'est comme si nous plantions des graines. Si vous semez peu, vous semez quelques graines, vous n'obtiendrez qu'une maigre récolte. Mais si vous semez abondamment, vous obtiendrez une récolte abondante. Il poursuit au verset 7, « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je vais vous lire une autre traduction de ce verset. La traduction de la Bible classique amplifiée en anglais dit « Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime, il prend plaisir, apprécie par-dessus tout et ne veut pas abandonner ni se passer d'eux, ceux qui donnent avec joie, joyeux, prompt à le faire, dont le cœur est dans leur don. » Et en réalité, c'est ce que Dieu recherche. Il recherche notre cœur. La vérité, c'est que s'il a mon argent, il a mon cœur. Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. On ne peut pas dire « Dieu a mon cœur, mais il n'a pas accès à mes fonds. Il a mon cœur, mais ses biens m'appartiennent. Je suis maître de tout cela. » Non, faire de Jésus le Seigneur signifie qu'il est Seigneur sur tout. Il est maître de tout, y compris des finances que je gère. Et c'est bien la réalité. Nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas les propriétaires. Dieu est le propriétaire de tout. Je suis un intendant. À certains intendants, il a donné la capacité et la vocation de gérer beaucoup et à d'autres de gérer moins. Cela ne signifie pas qu'une personne a moins de valeur qu'une autre. Mais nous devons être de bons intendants de ce que nous avons, ce qui signifie que nous devons faire ce que le patron veut que nous fassions avec les finances et les ressources que nous sommes appelés à gérer. Au verset 8, il poursuit, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » En d'autres termes, si vous êtes une personne généreuse, si vous vivez votre vie avec une main ouverte, les choses que Dieu a mises dans votre vie, les bénédictions que vous avez, les ressources matérielles dont vous disposez, vous devriez toujours avoir un cœur qui dit « Dieu, que veux-tu que je fasse avec ce que tu m'as confié ? Je ferai ce que tu veux que j'en fasse. » Lorsque vous agirez ainsi, Dieu apportera des bénédictions dans votre vie. Il prendra soin de vous, il répondra également à vos besoins. Les Écritures disent qu'il le fera abondamment et que vous aurez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je pense qu'il est très important de savoir cela. Ce principe s'applique de nombreuses façons. Permettez-moi de vous lire Proverbes 11:25. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est le principe selon lequel, lorsque nous donnons selon les directives de Dieu et que nous décidons dans notre cœur et dans notre esprit d'être généreux, Dieu veille à ce que des bénédictions généreuses nous reviennent. Dieu ne fait pas ses comptes le 1er et le 15 de chaque mois. Il existe une chose appelée le timing divin. Et nous ne pouvons tout simplement pas presser Dieu. Nous devons nous reposer sur le timing de Dieu et le laisser accomplir les choses comme il le souhaite. Mais je peux vous dire honnêtement ceci. Après avoir marché avec Jésus pendant près de 50 ans, j'ai fait de mon mieux pour gérer les ressources que Dieu m'a données et pour avoir un cœur généreux. Lorsque le Seigneur m'a incité à donner, j'ai donné. Lorsque j'ai simplement envie de le faire, je le fais. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une parole venue du ciel. Je peux vous dire que Dieu a été fidèle pendant toutes ces années. Bien sûr, il y a eu des périodes difficiles et j'ai traversé des épreuves. Je ne peux pas le nier ni l'éviter, absolument, c'est vrai. Mais Dieu a toujours été fidèle, il a toujours tenu parole. Il y a eu des périodes d'abondance où j'avais beaucoup pour mes besoins personnels et pour donner, comme il est dit, à toute bonne œuvre. Lorsque vous arrosez les autres, Dieu veille à ce que vous soyez également arrosé. J'espère que vous avez tiré quelque chose de ce message. Écoutez, j'ai encore beaucoup à partager à ce sujet. J'ai l'impression d'être sur le point d'exploser. Vous allez vouloir écouter la suite du message? En attendant, je prie pour que vous ayez une merveilleuse rencontre avec Jésus. Il vous aime, il est pour vous, il n'est pas contre vous. Faites appel à lui dès aujourd'hui. Ceux qui font appel au nom du Seigneur ne seront pas déçus. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a encouragé? Si oui, nous serions heureux que vous nous aidiez à produire d'autres émissions. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur bayless-conley.fr/don et pourrez également faire un don directement en ligne. Les dons réguliers sont d'une grande aide pour notre planification, mais chaque soutien ponctuel a également un impact important. Merci beaucoup.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.